Bon, eh bien, une question qu'on pose comme ça habituellement dans les écoles juives,
c'est bonne question.
Il faut quand même lui laisser quelque chose à faire. Bon, il se débrouillera. Vous voulez que je vous réponde? C'est-à-dire, je me réfère surtout à des grandes prophéties d'Ézéchiel. Ou bien vous voulez, ça se fera gentiment, avec terrain d'atterrissage approprié, ou bien vous verrez ce que vous verrez. Mais ça arrivera. Vous comprenez le point? C'est-à-dire, terrain d'atterrissage, c'est un engendrement, c'est pas un parachutage. Hein? Oui, ça a décollé il y a longtemps avec Abraham. Ça veut dire la matrice d'engendrement est là et elle est vivante. C'est la faute de personne, mais elle est vivante. Et si je devais l'exprimer dans un vocabulaire chrétien, je dirais très exactement comme ils le disent sous forme, disons, païenne. Et c'est une matrice éternellement vierge et éternellement féconde. C'est la société d'Israël. Elle est là. Vous comprenez?
C'est un parachutage.
Nous n'avons pas été parachutés en Israël. Nous sommes arrivés avec les pieds, pas avec la tête. Attendez, on va terminer. Élucidez. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant parachutage?
Éventuellement, nous ne sommes pas tous parachutés aussi, pour faire que c'est un
adversaire. Mais pourquoi? Je vous parle d'accouchement, vous me parlez d'aviation.
Je ne connais pas.
D'accord, très bien. Mais qui vous dit qu'elle n'est pas prête? Ah, vous vous sentez pas prête. Bon, d'accord, très bien. Mais vous voyez, ça c'est le problème de Sira, d'un individu, de la société dont nous parlons. Cette société-là est prête. Ken? Oui? Vous savez, pas tout à la fois. Oui. Vous savez, je vais donner deux réponses. La première, et c'est pas du tout pour ne pas répondre, on se donne rendez-vous pour ce jour-là et on verra ensemble. Okay. La deuxième, ah oui, c'est sûr. Vous savez, je me souviens d'avoir lu ça dans Tolstoï, je crois, il y a très très longtemps, à propos d'autre chose, mais c'est très relié. C'est, je crois, Tolstoï qui fait parler un de ses héros et qui dit « Je rentrerai pas au paradis tant qu'il y a un enfant qui souffre. » Eh bien, bien sûr, c'est tous ensemble. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait isolé avec lui. Attendez, c'est déjà un autre problème, c'est déjà une autre question. C'est un autre séminaire. Bien sûr, tout est lié. Mais il ne faut pas être allié en deux mots. Mais je reviens à votre première question. Je crois que lorsque le moment de la transfiguration par le bonheur arrivera, toutes ces questions s'évanouiront. Vous voyez ? Lorsque la rencontre est là, eh bien, c'est panim et panim. Pardon? Je crois que Embrera, on n'a pas le choix. C'est fini, on est à la fin des 6000 ans. C'est fini. Et il viendra parce qu'il n'a pas le choix. C'est où ça, où la planète saute? Parce que les hommes ont préparé tout ce qu'il faut pour ça. Alors là, il n'y a que deux options, ou pessimiste ou optimiste. Nous sommes optimistes par nature et par le mérite des ancêtres, et notre chant national, c'est la Hatikva, l'espérance. Bon, c'est pas par hasard. Oui. Eh oui, vous savez ce qu'a dit la femme de Lot. C'est tellement tragique tout ça qu'on va se détendre un peu. Quand elle s'est retournée en arrière et qu'elle a été transformée en sel, c'est un affreux jeu de mots. Elle a dit j'aime, c'est le sel j'aime. Mais, vous savez, c'est une question d'option. Ou bien on préfère être catastrophique, ou bien on préfère être messianique. Mais toutes les questions que vous avez posées se posent. Je crois qu'il faut avoir le courage de croire. Et ne pas avoir la pudeur exagérée d'avoir honte de croire. Ça fait 6000 ans qu'on croit que c'est possible. Alors on croit. Et bien, madame.
J'ai écrit en ce qui concerne le Shenar Shmita, que comme tous les 7 ans, ainsi aussi Haolam, Meshamet, Achat Lezaïn.
Lezaïn, pourquoi si c'est la fête
si, et c'est comme si on pouvait dire, quand on dit comme ça, Meshamet, Achat Lezaïn, que ça pouvait arriver plus qu'une seule fois. Ça veut dire que nous avons maintenant un 7e millénaire, et peut-être que Achat Lezaïn, ça peut arriver encore. Il peut y avoir une seconde chance dans un 7e millénaire.
Je préférais que vous disiez il a pu y avoir eu avant. Parce que ici, le maral ne précise pas si les aïnes, c'est à la fin ou ça peut être au début. Okay? Alors là, nous verrons peut-être dans le chapitre suivant, mais c'est la suite de la Gemara de Sanhedrin qui a une discussion quand même. Est-ce que c'est un millénaire ou deux millénaires de la Shemitah? Vous avez lu la suite? Mais, bon, ça, c'est un séminaire un peu de deuxième année. Mais, je reprends votre question, vous allez me dire si j'ai bien compris. Vous voulez dire que une chance est donnée.
On fait une généralité presque dans cette phrase, quand on dit que.
Ah, ça y est. Ça veut dire chaque fois qu'il y a 7 ans, il y a une fois.
Chaque fois qu'il y a 7000 ans, on a encore une chance.
D'accord.
Donc, si, pour monsieur, si on n'est pas prêt encore suffisamment, il nous reste encore, c'est à continuer à faire.
Bien sûr, rendez-vous pour la prochaine éternité, et moi et mes enfants. Bon, je crois que j'ai compris. Mais... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, il existe, mais j'ai promis à mon maître de ne pas vous en parler. Avant de partir, il m'a dit, cette fois, sois gentil. Non, pensez pas à ça. Dommage. C'est pas nécessaire, c'est pas obligé, c'est pas... Vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, ça pourrait être, mais... Non, il y a une certaine saturation d'irresponsabilité qui ferait que peut-être c'est devenu fatal. Oui. D'accord. Bon, mais pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est de bonne humeur. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Entraîne messianité,
tu as raison, mais messianité, déjà avant, mais Rabbi Amenou. Parce qu'au temps fixé, eh bien, c'est le temps fixé. J'ai bien compris ta question.
La notion du temps fixé, indépendant de la morale, ou pas tout à fait dépendant de la morale.
Voilà, je vais répondre, si j'ai bien compris, de la même. Dans tous les cas, ça dépend de la morale. À l'échelle collective, le mérite de la morale serait que le temps bienheureux aurait commencé il y a très longtemps. À l'échelle individuelle, au moment fixé, qui va mériter? Alors nous avons chacun un dossier moral. Okay. Ça veut dire, le Messie viendra. Mais pour qui il va venir? Et c'est ça le vrai problème. Vous savez, l'analyse de l'expérience de foi, elle est à la fois, je me suis dit, simultanément une certitude absolue et une incertitude totale. C'est-à-dire certitude absolue qu'il y aura, incertitude pour moi. Or, le vrai problème, c'est pour moi. Parce que sinon, ce serait une dérision. Qui Dieu a créé? Moi.
Mais là, le Maharal, à la fin de ce Pérec, parle de groupe Gadol. Donc, pour l'économie du temps, ça aurait pu ne pas exister. Ça aurait pu arriver avant le temps et la notion de temps. Et les deux sont liés au clair, il me semble.
Oui. Les deux sont liés au clair. Je répète un peu en nuançant ma réponse. Je crois que je n'ai pas plus de choses à dire. C'est que s'il y a un Sroud Gadol Meod, il a dit, alors ça vient plus vite pour le clair. Et on peut ouvrir la porte, toutes les créatures passeront. Parce que ne croyez pas qu'il s'agit ici d'une espèce de salut individuel, personnel, et puis les autres, quoi, tout le monde est créature du bon Dieu, du même. Bon. Et maintenant, s'il n'y a pas de mérite suffisant, alors c'est pas du maire Abbé Amenou, vite, il y a longtemps, c'est donc à la fin des 6000 ans, bon, il y a le renier, hein, ça vous le dit, bon. L'impératif moral reste impératif au niveau du destin individuel. Et le destin individuel, c'est pas ma petite microscopique personne, c'est toute ma lignée depuis le premier homme qui attendent, qu'est-ce que je vais faire, ouais, non, vous suivez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que le facteur temps a ajouté de nouveau?
Alors, répète la question autrement, je vais le dire à ta place. Si le Mashiach était venu avant, pourquoi il fallait attendre jusqu'à la fin des 6000 ans? Parce qu'il y a deux moments messianiques. Celui du début du temps messianique, celui de la fin du temps messianique, et on va voir ça dans le chapitre de demain. Le début du temps messianique, c'est le rassemblement des exilés. La fin du temps messianique, c'est la résurrection des morts. Ça, c'est autre chose. Alors, nous aurions vécu un temps messianique heureux, long, l'histoire dans un monde, un château, ce qui était là hier soir, et puis voilà, on n'a pas mérité plus que quelques dizaines d'années. Mais dans tous les cas, il faut arriver à 6000 ans pour la résurrection des morts. Ça, il va le dire demain. Attendez, est-ce que je la connais?
Non.
Non. Dommage. Elle est capable de dire ça avant de savoir ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas encore. Bon, je vais essayer de lui donner rendez-vous. En vrai, quel? J'avais dit les juifs, non? Pas la même chose, je te dis. Oui, mais continue.
Non, mais justement, la réponse. Comment vous allez comment cela mérite-t-il
Oui, écoutez, là il faut alors prendre des dimensions extrêmement universalisantes. Là, je me référais à l'enseignement du Rav Ashlag. C'est peut-être difficile pour des modernes comme nous, mais on n'a rien compris à la messianité tant qu'on ne comprend pas qu'il s'agit de la destinée de tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront ensemble. Et il faut arriver à se hauter à ce niveau-là. Et c'est cela que Dieu a créé. Alors il faut une capacité de générosité énorme. Et peut-être que c'est cela qui nous empêche de percevoir cette perspective. Je crois qu'on ne peut pas se relier à la messianité si on ne dispose pas d'une capacité d'amour total. Et ça se relie à la question de, avec le prophète Malachi. C'est, au fond, ceux qui refusent la méchanité, c'est ceux qui ont peur d'être aimés. Ça va aussi avec votre voisine.
C'est l'autre qui le rit, lui aussi il faut
aimer. Non, mais ça c'est Ayn Rah. Mais ils ont peur d'être aimés parce qu'ils ont peur d'aimer. Parce que ça c'est réciproque, on ne sait pas. Alors tout ça, ça nous renvoie au problème de la moralité. Et je crois que c'est visible à l'œil nu que si cette civilisation passe par les tribulations par lesquelles elle passe, c'est parce qu'on avait mis la moralité, entre parenthèses, dans l'économie du salut. Bien. Oui. Ah oui, on n'a pas eu le temps de poser la question.
Attends, une autre question.
Ben, de quel mérite il s'agit, de quelle faute il s'agit? Ben, je crois que c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais on est au fond du sujet. C'est le retard, c'est le fait de différer. C'est le retard, c'est l'extraterranéité, je ne sais pas comment dire. C'est le fait qu'on n'a pas osé vouloir vraiment ce qu'on voulait. On a dit l'année prochaine à Jérusalem. Ça fait partie. Vous savez, je me rappelle un de mes maîtres il y a longtemps, c'était Shushani, Yisroel Ibraha, et il est venu Baruch Haba, et qui disait, les Juifs disent qu'ils attendent le Messie. Quel pieux mensonge. C'est lui qui les attend. Mais il a raisonné rendez-vous quelque part. Et dans ce quelque part, il fonctionne. Et on mange des tomates du et des bananes saines. Bon. Non, ça je me référais à des données de la théologie chrétienne. Qu'on peut avoir son salut même en mettant le problème moral entre parenthèses. Je ne vais pas dire en étant immoral, c'est un autre problème. Mais c'est amoral, en dehors de la morale. Comment? Ah non, non, pas le salut, garde à vous. Mais garde à vous, parce que... Prenez garde à vous.
D'ailleurs, le deuxième chapitre... Et on vous a distribué donc des...
C'est le même texte que l'autre fois ou c'est d'autres?
Vous faites deux à parler. Écoutez, on vous a donc distribué de nouveau des photocopies pour ceux qui n'en avaient pas.
Ah bon.
Je pense que s'il en reste, mettez-en derrière pour les retardataires. Il en reste derrière? Non? Alors, je vais vous en faire passer quelques-uns et... Je vais laisser derrière. Vous voulez donner à ceux qui arrivent à la fin. Et d'autre part, vous avez reçu aussi. Vous avez reçu aussi une. Pardon. Ce que nous avons appris d'essentiel, surtout vers la fin du chapitre 27, c'est que la citation du Talmud indiquait. Qu'à partir de la structure des 6000 années de l'histoire, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Yemot HaMashiach, ce qu'il fallait comprendre, c'est la différence entre l'expression Yemot HaMashiach, qui définit la troisième partie de ces 2000 ans, du moins, je ne vais pas parler, mais vous avez compris, les troisièmes 2000 ans, et ça ne veut pas dire que ce sont 2000 ans de temps messianique effectif. Mais 2000 ans de jour du temps, 2000 ans de durée du temps, où le royaume messianique peut se dévoiler. La différence entre Yemot HaMashiach et Malchut HaMashiach. Yes, c'est là que nous étions arrivés. Et le Maharal a conclu en disant que de toute façon, le temps normal approprié au dévoilement messianique effectif, eh bien, c'est à la fin. Et par conséquent, il suffit que ce soit à la fin de ces deux millénaires. Et je vous signale que le Maharal a précisé sa formulation il y a déjà beaucoup de temps. C'est donc à travers cette longue patience de l'espérance messianique à travers ces 2000 ans, il y a eu, nous en avons parlé dans le premier cours, un diagnostic que la bifurcation qui a été prise dans l'histoire et celle qui ferait qu'en fin de compte, le dévoilement messianique ne se ferait qu'à la fin. Et bien entendu, il y a eu, à chaque moment, nous allons revoir dans notre citation aujourd'hui, dans l'étude d'aujourd'hui, l'espoir très intense que ça pourrait être quand même Bimhera Beyamenu, anticipé avant la fin complètement. Je crois qu'il y a là, nous allons peut-être parler à propos d'autres sujets, il y a là un diagnostic que, en fin de compte, c'est une des possibilités qui a été choisie concrètement par l'histoire du peuple juif, celle d'attendre jusqu'à la fin, puisque il y avait deux possibilités. Alors, nous allons peut-être commencer par là. Prenez votre page du Talmud, et vous avez là la référence à laquelle je me réfère habituellement. Vous commencez dès le début du paragraphe B. Sirin. Alors, je vous lis rapidement. Vous avez là la référence de base de ce dont je veux parler maintenant, que dès le début de ces 2000 ans de possibilités de dévoilement messianique, il y avait précisément deux possibilités. Ou bien, par le mérite, tout de suite, ou bien s'il n'y a pas de mérite, ça viendra en fin de compte par l'horloge de la loi des temps, par la nécessité de l'accomplissement du projet. Nous avons parlé un peu de cela hier. Alors, vous avez la référence là. D'ailleurs, pas exactement pour ça, je vous ai donné cette page, mais c'est dans le même paragraphe. Amara Rabbi Alexandrai, Alexandrique. Amar Rabbi Alexandrie, Rabbi Yoshua ben Levi Ramé, Tiv. Rabbi Yoshua ben Levi, qui est cité par Rabbi Alexandrie, met en évidence une opposition à l'intérieur d'un verset d'Isaïe. Le verset, c'est le chapitre 60. Verset 22, où à propos de ce moment du dévoilement messianique, c'est-à-dire où l'utopie messianique devient réellement malchut à Mashiach, la réalité messianique, ce dont nous avons parlé un peu hier soir aussi, le verset dit « Be'ita achishena ». En son temps, « Be'ita achishena », je la ferai venir vite. Vous vous rappelez de cette référence, Ken? Alors, je vous lis avec moi dans le texte, « Rabbi Yoshua ben Levi Ramé ». Chaque fois qu'il y a ramé dans le texte du Talmud, ça veut dire met en évidence une contradiction apparente. Oppose un verset à un verset, ou bien oppose un aspect d'un verset avec un autre aspect du même verset. Ktib be'ita, ou ktib achishena. Il est écrit en son temps, et il est écrit je l'anticiperai. Les achish, ça veut dire faire venir plus vite. Et la question est donc, si c'est en son temps, qu'est-ce que ça veut dire plus vite, et si c'est plus vite, qu'est-ce que ça veut dire en son temps? Bon. Retenez bien que l'expression « Be'ita Rishena » va garder son sens propre, simple. Mais ici, Rabbi Yoshua ben Levi met cela en évidence de cette manière. « Zachu Rishena » S'il mérite, je ferai venir les choses plus vite. « Lo Zachu » Il ne mérite pas. « Be'ita » Ça viendra en son temps. Mais dans tous les cas, ça viendra. Alors, vous voyez comment c'est relié à la fin de l'analyse du Maharal du chapitre précédent. C'est clair? Je voudrais que ce soit bien clair. Bon, cela veut dire que, pour revenir donc au Maharal lui-même, ce qu'il nous a enseigné à la fin du chapitre, quand on a dit 2000 ans des temps messianiques, ça ne veut pas dire des temps messianiques effectifs, ça veut dire 2000 ans pendant lesquels les temps messianiques pourraient devenir effectifs. Et si on ne mérite pas, cela ne devient effectif qu'à la fin. Parce qu'il y a un processus d'engendrement de cette réalité à travers l'histoire. Si on la mérite, eh bien, elle se stabilise plus tôt, et l'humanité entière, le monde, aurait pu être dans le temps messianique dès le début de ces deux derniers millénaires. Et là, nous avons le dossier chrétien, Ken, sur lequel je reviendrai tout de suite. Mais puisqu'il n'y a pas eu de mérite, alors il faudra attendre à la fin. Et donc, à la fin, il suffit que ça soit une génération, ça suffit. Parce que c'est la fin qu'on attend maintenant. Alors, si le commencement de la fin a commencé tard, c'est pas grave. C'est ce que le Maharal va expliquer. Mais nous sommes vraiment, si vous voulez, dans des limites de temps extrêmement programmées. Et c'est pourquoi je reste toujours perplexe lorsque j'assiste à la réaction des hommes de foi qui ne savent pas lire un calendrier. Tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, on reviendra sur ce problème tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que le Maharal est donc dans cette lignée de ces grands en Israël, de ces grands rabbins, qui ont diagnostiqué dans le comportement de leur peuple que décidément ce peuple avait choisi la deuxième voie et pas la première. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Alors c'est pourquoi nous avons une formulation de ce type. Il y a 2000 ans, les rabbins disaient, vous savez, vous avez deux possibilités. Ou bien par le mérite, Zahou, Achishena, alors ça va venir vite. Ou bien, il n'y a pas de mérite, il faudrait attendre la fin de la fin. Sauf, en fin de compte. Et comme on savait très bien que cette fin était très loin, imaginez en l'an zéro, si la question était posée de dire, vous savez, ça viendra en 1948, qui allait attendre 1948. Alors on a dit, c'est caché, on ne sait pas. Et c'est clair. Bon. Et en même temps, on disait, ben, aujourd'hui, si tu mérites. Chaque fois qu'on entendait le juif dire l'année prochaine, on savait bien que c'était en 1948. Vous avez compris le... Ça y est, c'est clair. C'est cette citation que nous allons commencer à étudier. Mais je voudrais, vous avez remarqué que on ne peut pas mélanger les deux vocabulaires, celui de l'eschatologie et celui de l'exégèse. Mais je crois qu'il y a une donnée extrêmement simple, il faut savoir lire les dates du calendrier et se rendre compte que si nous prenons au sérieux ces textes, eh bien nous sommes effectivement à la fin de ces troisièmes deux millénaires. Et que c'est à la fin de ces troisièmes deux millénaires que les événements de commencement de concrétisation se produisent. Alors ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voient rien, est-ce que c'est clair ? Avoir encore des perplexités idéologiques alors que l'événement est là, ça me dépasse. Est-ce que c'est clair ? C'est pourquoi j'ai parlé hier soir d'une crise de la foi. Est-ce que c'est... Oui. Bien, alors maintenant on revient au Mahar. Et alors, je vous propose donc, s'il n'y a pas de questions, d'aborder tout de suite la lecture du texte, parce que j'aimerais bien qu'on puisse terminer aujourd'hui ce chapitre. Je suis optimiste, utopiste. Ouais, il n'y a pas de questions. Okay. Bon. Cher ami, tant que vous n'êtes pas assis, je ne peux pas commencer. Si vous êtes debout, ça me fatigue. Bien. Comment ? Bon, faites rapidement, quoi. De qui il parle ? De lui ou de quelqu'un d'autre ?
Ah bon,
d'accord. Bon, eh bien, il va s'asseoir. Non, oui. Tout le monde arrive à m'entendre, quand même ? Sinon, je peux parler debout, mais... Ça va, vous m'entendez ? Bon. Yesh lecha lishol... Tu dois demander, poser la question suivante. Ahar asher amarnu, après que nous ayons dit ki azman asher umesugal, que le temps approprié sheigale bo hamashiach, pour le dévoilement du Mashiach, be'aharon yemeolam, se trouve à la fin des jours du monde, donc si vous voulez, à partir des derniers siècles du sixième millénaire, jusqu'à la fin, en restant relié à la citation stricte que nous avons eue déjà depuis le début du cours. Imken, s'il en est ainsi, lo imasher malchut ha-mashiach zman rav, alors ça veut dire que le temps du royaume messianique ne durera pas longtemps. Et le Maharal veut me dire, si, d'un point de vue théorique, il est légitime d'attendre la fin à la fin, si d'un point de vue historique, nous voyons bien que l'option qui a été prise, c'était celle de l'événement, même s'il n'y a pas mérite, puisqu'effectivement, les siècles ont passé, Yatsu, Maché, Yatsu, vous vous rappelez ? Alors par conséquent, tu pourrais te demander, mais alors, cette chose qu'on attend depuis le commencement de la création du monde, ça va durer très peu de temps. Alors nous aurions un long temps d'un Olamazé, d'un ce monde-ci en chaos, malgré sa Torah, et puis un tout petit temps d'un ce monde-ci convenable, vivable, qu'on en appellerait les temps messianiques. Le Maharal va nous expliquer, et j'espère y arriver ce matin à le citer suffisamment, ça nous suffit, parce que ce qu'on attend en réalité, c'est de passer là-bas, c'est pas d'arranger le corridor, c'est de rentrer dans le palais, enfin dans le château. Bon, on va voir ça plus en détail. On est dans l'antichambre. Alors, on aimerait bien traverser une antichambre en ordre. Bon, notre antichambre a été en désordre, mais elle n'est que l'antichambre. L'essentiel, c'est le palais où il faut rentrer. Alors, on va changer de niveau avec la notion de Rolam Abba. Et là, nous apparaîtra la notion de Yemot HaMashiach, de Malchut HaMashiach, comme, si vous voulez, si on n'a pas mérité de l'avoir pendant 2000 ans, eh bien, comme un temps d'un monde ordonné, d'un monde rédimé, rédemption, suffisant pour faire le passage de Rolam Hazé à Rolam Abba. Et le Maharal semble nous dire que ce n'est pas nécessaire, a posteriori, puisqu'on n'a pas mérité, que le temps que durera le royaume messianique soit long. On n'attend pas une éternité messianique, on attend un temps de passage entre ce monde-ci et le monde à venir. Et c'est ce temps de passage qui s'appelle le temps messianique. Alors, je reprends le raisonnement, et si déjà tu admets le résultat de l'enseignement précédent, qu'après tout, il suffit que la fin vienne à la fin, alors tu vas te dire, mais alors elle ne va pas durer longtemps, cette fin. Et le Maharal va nous répondre, c'est pas nécessaire. Alors, vas-y. Parce que si vous calculez le temps qu'il y a entre 5708 et 6000, il n'y en a pas tellement. Bon. Mais le Maharal va nous dire, ça nous suffit, parce que c'est ce qu'il y aura après les 6000 ans qui est important. C'est clair. Bon, alors on continue. Vimken, Mahu Atova, et s'il en est ainsi, quel est ce bienfait chez Kablou Israël, Bismana Mashiach, qu'Israël recevra au temps du Messie, si le royaume messianique doit durer si peu, puisqu'il ne dure que la fin de la fin des 6000 ans. Asher Mashiach, Hitivat Israël, Betohaltam, alors que le Messie a été l'espérance d'Israël et leur aspiration. Alors il y aurait là un paradoxe. Ce que l'on attendait tellement, finalement, ça peut être destiné à ne durer que très peu. Vous voyez quelle est la question de ma mère. Le Omer de Vadaï, et il répond que, évidemment, les Mish et Omer Beperek Helek, par rapport à l'opinion dans notre chapitre qui dit que Zman HaMashiach y est Zman Aror, que le temps du Mashiach sera un temps long, alors là, c'est une opinion qui se rattache à la première branche de notre alternative. C'était s'il mérite, si Israël mérite, le temps du Mashiach sera très long. Okay. C'est clair? C'est-à-dire, il n'y a pas controverse, mahloket, on dit contradiction. Et l'un a dit le temps du Mashiach sera très long, parce que ça pourrait être 2000 ans. L'autre a dit non, il sera très court, une seule génération. Il n'y a pas de contradiction. L'un a pensé dans la perspective, si on mérite, c'est 2000 ans. Et l'autre a pensé, si on ne mérite pas, c'est une génération. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris cela, parce que sinon on ne peut pas avancer le raisonnement. Mais retenez que nous avons toujours le dossier chrétien en suspens. Mais très rapidement, les responsables de la société chrétienne ont fait un diagnostic analogue. Parce qu'ils avaient commencé par dire, on est entré dans le temps messianique effectif. Tout de suite, ils se sont aperçus que ce n'était pas effectif. Alors ils ont dit, dans un temps messianique potentiel. Bon, eh bien, ça on savait. Et alors, malheureusement, ils ont ajouté, et c'est pas effectif à cause des Juifs. S'ils n'avaient pas ajouté ça, on aurait pu se comprendre. Vous voyez à peu près le problème. C'est clair. Quelqu'un voulait poser une question, oui? Ça dépend de pour quel sujet. Moi, j'ai dit 40 ans pour ce sujet-là. Okay. Pour d'autres sujets, ça peut être 70 ans, ça peut être... Ça dépend. Mais enfin, vous voyez, quand je dis bi-génération, que s'achève la génération des pères, qu'apparaisse la génération des fils, dans cette transition, je reprends un peu le vocabulaire d'hier soir, il y a actuellement suffisamment de capacités culturelles humaines pour transformer la planète en paradis terrestre. Il suffirait de ce temps-là, si on arrête les budgets de guerre. Vous vous rappelez de ça? Et j'étais très impressionné du fait que seuls les communistes n'arrivent pas à entendre ça. À comprendre. Il a remarqué. Bon, alors on revient au sujet. Bon, mais comme j'avais décidé d'être gentil, alors je suis resté gentil. Et donc il n'y a pas de contradiction. Venze soter, cela ne contredit pas les Mashé Amarnou, ce que nous venons de dire à la fin du chapitre précédent, chez Yeme Amashiach Be'acharit Hayamim. Que les temps, j'ajoute, effectifs du Messie, c'est à la fin des jours du monde. Qui yemei HaMashiach zman echad. Car les temps du Messie, c'est une unité de temps. Les jours du Messie, c'est une unité de temps. L'okemo chez vous, Azmanazé, et non comme est le temps que nous vivons maintenant, Bishvil Robatsarot, qui à cause il s'agit des persécutions, Robatsarot, à cause des malheurs, du nombre des malheurs, chez Mbizmanazé, que nous vivons dans le temps de ce monde-ci, Nershav Azman Arochmeo, le temps nous paraît très long. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre trop de temps pour expliquer ce problème de temps, mais ce que je veux dire, c'est que le long temps de l'exil nous a paru très long. Et on pouvait espérer une compensation avec un long temps messianique. Mais dès qu'on arrive à focaliser la définition du temps messianique, le Maharal va expliquer, et là, nous allons commencer à nous habituer à un vocabulaire autre qu'il faudra prendre au sérieux, qu'au fond, nous avons besoin des temps messianiques que pour la résurrection des morts et pour préparer l'endroit où il se fera, la société messianique. Et donc, je comprends bien, pour des modernes comme nous, ça va être très dépaysant des notions pareilles. Alors déjà, il fallait prendre la notion du messianisme au sérieux, mais celle de la résurrection des morts en plus, c'est trop vite. Vous voyez pourquoi il fallait attendre la fin des temps. Je veux dire, d'une certaine manière, on pourrait dire on n'est pas encore préparé à de telles notions. Bon, je vous l'annonce dans le raisonnement, pour pouvoir comprendre la cohérence du raisonnement du Maharal. Abal yemei HaMashiach yamim sheyu besof hazman hu echad. Mais les jours du Messie, qui doivent se réaliser à la fin des jours du monde, sont une unité de temps pour elles-mêmes. Et il n'y a plus de problème, dit le Maharal, semble dire le Maharal, de savoir si ce temps sera long ou pas en temps de calendrier. Okay. C'est un Zman Echad auquel il faut arriver. Et si ce Zman Echad avait duré 2000 ans, et dommage qu'il n'a pas duré 2000 ans, l'humanité aurait pu vivre cette troisième partie de cette période de son histoire dans l'allégresse, dans la joie, dans le bonheur, dans un monde cohérent. Eh bien non, elle ne l'a pas mérité. Alors elle l'a vécu dans les tsarotes, dans les difficultés, dans les peines, etc. Tsarot, c'est plus fort que tout ça, c'est quoi? Les malheurs, okay. Les malheurs, mais quand nous y serons à cette fin des fins, c'est-à-dire au temps du Messie, eh bien, il suffira qu'il y ait un petit moment. Ça nous suffira pour savoir que ce monde-ci, dont nous avons traversé l'histoire, avait un sens. Mais on sera tout de suite occupé à l'autre. Vous rappelez la statue de sel, okay. Bon. Ulfi otam sheomrim shen malchut amasharim sharkolkar. Et si, pardon? Non, c'est dont on a parlé hier, je ne reviens pas là-dessus. Ulfi otam sheomrim. Et selon ceux qui disent, sheyu besof hazman, estecha, shen malchut amashiach nimshar kolkar, que le temps du royaume du Messie. Alors maintenant vous comprenez bien, quand il dit royaume, ça veut dire le temps effectif de la messianité, et non pas le long temps où elle aurait pu déjà. Mais nous n'avons pas mérité d'être effectifs. Enze kasha, là non plus il n'y a pas de difficulté. Sheima inu omrim kitovat amashiach lechol velishtot bilbad. Et vous rappelez Maïmonide hier soir. Parce que si nous disions un peu, disons, à la manière de l'islam populaire, je dis bien, parce que l'islam mystique authentique, le soufisme par exemple, ne dit pas ça comme ça, c'est l'islam populaire, que finalement l'essentiel du monde messianique c'est de manger et de boire et de se distraire, vous vous rappelez de cela? C'est-à-dire, au fond, quel serait le paradis de l'islam? Un cabaret libanais réussi, quoi. Mais nous préférions libanais à Mikdash. Alors, si c'était le cas de... Si c'était le cas d'une telle messianité, ça n'a pas d'importance. Hayal echale akshot kushiazot. Là, tu aurais eu une question. Ah bah, là, nous, Omrim. Mais ce que nous disons, nous, la tradition juive, qui a Mashiach Yavo, que le Mashiach vient, Kedeleashlim ou Yasher à Olam, afin de donner plénitude et droiture, rectitude au monde, Liknot Triat Ametim, afin d'acquérir la résurrection des morts. Vers Olam Abba et le monde à venir. Et vous voyez à quel point le programme du Maharal est clair. Hein? C'est-à-dire, Olam Azé s'achève dans ces deux derniers millénaires. Ces deux derniers millénaires de l'achèvement de Olam Hazé auraient pu être des temps de bonheur pour l'humanité. Vous savez qu'on a remarqué cela, il n'y a pas eu une seule année au monde dans toute cette histoire où l'humanité n'était pas en guerre. Il n'y a pas eu une année de paix. Bon. Et puis, On ne l'a pas mérité, donc ce monde-ci s'achève dans les temps messianiques qui viendront à la fin de ces deux millénaires, nous dit le Maharal en expliquant la Gemara, et les sources sont anciennes, bien sûr. Et puis, au fond, on aura un peu de temps de Yemot HaMashiach, mais c'est pour préparer la résurrection des morts. Et vous savez quelle est la règle de la résurrection, la règle de l'étude. On ne comprend pas encore de quoi on parle, okay, mais c'est pour mettre en évidence la cohérence de l'enseignement. Et la règle de la résurrection des morts, c'est que ce sont les morts qui sont enterrés à l'endroit de la résurrection des morts qui ressusciteront, et c'est eux qui décident lesquels autres ressusciteront. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Et c'est pourquoi on a fait la queue pour se faire enterrer en Eretz Israël. Alors, je reviens en fait. Avec, on ne comprend pas ces choses-là. On a le temps de les aborder pour essayer de les comprendre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, revenons au problème. Donc, Imken, ma bechar, qu'est-ce que ça peut faire, shelo yenim shach malchut ha-mashiach, que le temps du royaume messianique ne soit pas très long. Kol ki hay rithal le iratach sheiten lahem madriga yoter elona, hu madriga triat ametim le'olam hava. Tout celui qui a vraiment exigence de cela, d'arriver madriga yoter elona, un niveau supérieur d'être, qui est le niveau de Triat HaMetim, la résurrection des morts, et le monde à venir. Vime HaMashiach et Norak, et les temps du Messie, c'est uniquement chez Aliada qu'à travers cela, Iskou les Madriga Yotea Imiona, on puisse arriver à une Madriga, un niveau d'être supérieur. Je vais employer un autre vocabulaire, peut-être qui est plus proche de notre monde culturel. S'il s'agit d'une mutation, alors la mutation en elle-même est là pour permettre de passer d'un niveau à l'autre. Mais c'est le niveau auquel il faut passer qui est important. Et si donc le temps de l'effort de mutation est court, eh bien, après tout, c'est tout ce qu'on a mérité. Il y a une certaine jouissance à être déjà le mutant. Okay, c'est un problème de mutationnisme. Okay, mais l'objectif, c'est le niveau supérieur, c'est-à-dire le... Est-ce que c'est clair? C'est l'enseignement du Maharal que je veux expliquer. Encore une fois, pour résumer tout cela, bon, ben, si nous avions mérité, ça aurait été vraiment 2000 ans de temps messie. On ne l'a pas mérité. Alors, on aura à la fin, et contraint et forcé, puisqu'on n'a pas mérité. Et vous remarquerez que tous les événements qui nous bousculent sont des événements contraints et forcés. Alors, on aura, parce qu'il faut l'endroit, la salle de clinique, où la mutation se passe. C'est vraiment du mutationnisme. Ça y est, c'est clair. Bon. Vous vous rappelez d'ailleurs ce qui s'était passé pour le premier homme. Anesthésie, le premier homme, okay. Anesthésie, opération chirurgicale, il était monté sur la table d'opération un double, il en sort deux doubles. Okay. Bon. Non, je plaisante, un petit peu. Vous vous rappelez de Tardema, okay. Et chaque fois qu'il y a Tardema, ça veut dire torpeur, disent les traducteurs. Ça ressemble un peu à l'anesthésie, quand même. Et chaque fois qu'il y a une mutation dans l'histoire, alors on voit que celui qui est objet de la mutation tombe d'abord dans cette tardéma. Abraham, Boaz, vous avez suivi? Hein? Le Nevi'im. Et nous étions en tardéma pendant 2000 ans. Et maintenant, on se réveille. On a tardé. Et là... Vous rappelez ce midrash que je vous ai raconté un jour? Attention, ne notez pas de référence, c'est moi qui l'ai inventé. C'est que quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image. Vous vous rappelez de ça? Si tu es sage, tu auras une image. Ce sont traduits à l'image de Dieu. Et après, il lui a dit, et maintenant, rendez-vous à la prochaine mutation, au Sinaï. Alors au Sinaï, ils sont arrivés. D'abord, miracle. C'est Dieu qui parle. Miracle, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils sont sortis d'Égypte et ils sont arrivés au Sinaï. Alors il dit, bon, maintenant, tu seras sage et tu ne te feras pas d'image. Vous vous rappelez de ça? Bon. Et rendez-vous à la prochaine mutation. Et bon, vous voyez? Alors je viens au problème. Alors que finalement, ces temps du Mashiach, c'est pour préparer le passage à Olam Haba. Et ce passage à Olam Haba, sera donné à ceux qui vivront l'expérience, on n'a pas encore compris de quoi il s'agit, qui s'appelle ici Triatametim, la résurrection des morts. En tout cas, il y a une chose claire, c'est arrivé pour le...